L'anarchie, sa philosophie, son idéal. Pierre Kropotkin. Citoyennes et citoyens, ce n'est pas sans une certaine hésitation que je me suis décidée à prendre pour sujet de cette conférence la philosophie et l'idéal de l'anarchie. Ceux qui sont persuadés que l'anarchie n'est qu'un ramassis de visions sur l'avenir et qu'une poussée inconsciente vers la destruction de toute civilisation actuelle sont encore bien nombreux. Et pour déblayer le terrain des préjugés de notre éducation, il faudrait peut-être entrer dans des développements que l'on aborde difficilement dans une conférence. Il y a 2 ou 3 années seulement, la grande presse parisienne ne soutenait-elle pas que la seule philosophie de l'anarchiste, c'est la destruction, son seul argument la violence? Cependant, on a tant parlé récemment des anarchistes qu'une partie du public a fini par lire et discuter nos doctrines. Quelquefois même, on s'est donné la peine de la réflexion, et en ce moment, il y a du moins un point de gagné. On admet volontiers que l'anarchiste possède un idéal. On le trouve même trop beau, trop élevé pour une société qui n'est pas composée que d'hommes d'élite. Mais n'est-il pas trop prétentieux de ma part de parler d'une philosophie là où, au dire de nos critiques, il n'y a que des visions pâles d'un avenir lointain? L'anarchie peut-elle prétendre à posséder une philosophie lorsqu'on refuse d'en reconnaître une au socialisme? C'est à quoi je vais essayer de répondre, en y mettant toute la précision et toute la clarté possible, et en vous priant de m'excuser d'avance si je répète devant vous un exemple ou deux que j'ai déjà mentionné dans une conférence faite à Londres, et qui, ce me semble, permettent de mieux saisir ce qu'il faut entendre par « philosophie de l'anarchie ». Vous ne m'en voudrez certainement pas si je prends tout d'abord quelques exemples élémentaires empruntés aux sciences naturelles. Non pour en déduire nos idées sociales, loin de là, mais simplement pour mieux faire ressortir certains rapports qu'il est plus facile de saisir dans les phénomènes constatés par les sciences exactes qu'en cherchant ces exemples seulement dans les faits si complexes des sociétés humaines. Eh bien, ce qui nous frappe surtout dans les sciences exactes en ce moment, c'est la profonde modification qu'elles subissent depuis quelques années dans toute leur façon de concevoir les faits de l'univers et de les interpréter. Il y eut un temps, vous le savez, où l'homme s'imaginait la Terre placée au centre de l'univers. Le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles semblaient rouler autour de notre globe, et pour l'homme, ce globe, habité par lui, représentait le centre de la création. Lui-même, être supérieur sur sa planète, était l'élu du Créateur. Le Soleil, la Lune, les étoiles n'étaient faits que pour lui. Vers lui était portée toute l'attention d'un dieu qui veillait sur le moindre de ses actes, arrêtait pour lui le soleil dans sa marche, voguait dans les nuages, lançant ses ondées ou ses foudres sur les champs et sur les villes pour récompenser les vertus ou châtier les crimes des habitants. Pendant des milliers d'années, l'homme a ainsi conçu l'univers. Vous savez cependant quel immense changement se produisit au XVIe siècle dans toutes les conceptions de l'homme, lorsqu'il lui fut démontré que, loin d'être le centre de l'univers, la Terre n'était qu'un grain de sable dans le système solaire, rien qu'une boule beaucoup plus petite que d'autres planètes, que le Soleil lui-même, cet astre immense en comparaison de notre petite Terre, n'était qu'une étoile parmi tant d'autres étoiles sans nombre que nous voyons briller dans le ciel, fourmiller dans la Voie lactée. Combien l'homme parut petit devant cette immensité sans bornes, combien ridicules semblèrent ses prétentions. Toute la philosophie de l'époque, toutes les conceptions sociales et religieuses se ressentirent de cette transformation dans les idées cosmogoniques. C'est de cette époque seulement que datent les sciences naturelles, dont le développement actuel nous rend si fiers. Mais un changement, encore plus profond et d'une portée beaucoup plus grande, est en train de s'opérer dans l'ensemble des sciences, et l'anarchie, vous allez le voir, n'est qu'une des manifestations multiples de cette évolution. Elle n'est qu'une des branches de la philosophie nouvelle qui s'annonce. Prenez n'importe quel ouvrage d'astronomie de la fin du siècle passé ou du commencement d'une autre. Vous n'y trouverez plus, cela va sans dire, notre petite planète au centre de l'univers. Mais vous y rencontrerez à chaque pas l'idée d'un astre central immense, le Soleil, qui, par son attraction puissante, gouverne notre monde planétaire. De cet astre central rayonne une force qui guide la marche des satellites et maintient l'harmonie du système. Issues d'une agglomération centrale, les planètes ne sont pour ainsi dire que des bourgeons. À cette agglomération, elles doivent leur naissance. À l'astre radiant qui la représente encore, elles doivent tout. Le rythme de leurs mouvements, leurs orbites savamment espacées, la vie qui les anime et orne leur surface. Et lorsque des perturbations quelconques viennent troubler leur marche et les font dévier de leurs orbites, l'astre central rétablit l'ordre dans le système, il en assure et perpétue l'existence. Cette conception s'en va aussi comme s'en est allé l'autre. Après avoir porté toute son attention sur le Soleil et les grandes planètes, l'astronome se met à l'étude des infiniment petits qui peuplent l'univers. Et il découvre que les espaces interplanétaires et interstellaires sont peuplés et sillonnés dans toutes les directions imaginables de petits essaims de matière, invisibles, infimes quand on les prend séparément, mais tout puissants par leur nombre. Parmi ces masses, les unes, comme ce bolide qui l'autre jour semait la terreur en Espagne, sont encore assez grandes. D'autres pèsent à peine quelques grammes ou centigrammes, tandis qu'autour d'elles voguent encore des poussières, presque microscopiques, remplissant les espaces. Et c'est à ces poussières, à ces infiniment petits qui sillonnent l'étendue dans tous les sens avec des vitesses vertigineuses, qui s'entrechoquent, s'agglomèrent et se désintègrent, partout et toujours, c'est à eux, dis-je, que l'astronome demande aujourd'hui d'expliquer et l'origine de notre système, soleil, planètes et satellites, et les mouvements qui animent ces différentes parties, et l'harmonie de leur ensemble. Encore un pas, et bientôt l'attraction universelle elle-même ne sera plus qu'une résultante de tous les mouvements, désordonnés et incohérents, de ces infiniment petits, des oscillations d'atomes qui se produisent dans toutes les directions possibles. Ainsi le centre, l'origine de la force, transporté une fois de la Terre au Soleil, se trouve éparpillé maintenant, disséminé. Il est partout et nulle part. Avec l'astronome, on s'aperçoit que les systèmes solaires ne sont que l'œuvre des infiniment petits, que la force qu'on croyait gouverner le système n'est elle-même, peut-être, que la résultante des chocs de ces infiniment petits, que l'harmonie des systèmes stellaires n'est harmonie que parce qu'elle est une adaptation, une résultante de tous ces mouvements innombrables, s'additionnant, se complétant, s'équilibrant les uns les autres. Tout l'aspect de l'univers change avec cette nouvelle conception. L'idée de force régissant le monde, de loi préétablie, d'harmonie préconçue, disparaît, pour faire place à cette harmonie que Charles Fourier avait entrevue un jour, et qui n'est que la résultante des essaims innombrables de matière, marchant chacun devant soi et se tenant mutuellement en équilibre.